VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Abidjan, 17h à Niamey et 18h à Bukavu. De nouveaux affrontements ont eu lieu ce mercredi matin à Brazzaville au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise en lien avec le référendum constitutionnel qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Sur l'avenue de la base près de l'aéroport international Mayamaya dans l'ouest de Brazzaville, des groupes de quelques dizaines de jeunes ont tenté de reprendre les barricades dressées la veille et qui n'étaient pas encore dégagées par les forces de l'ordre. La police anti-émeute a tiré à plusieurs reprises des grenades lacrymogènes, rapporte l'AFP. Les jeunes provoquaient policiers et militaires déployés sur place en se repliant dans les rues adjacentes lorsqu'ils étaient débordés pour revenir ensuite sur l'avenue où l'on pouvait voir des voitures calcinées et caillassées mardi. En Côte d'Ivoire, l'enjeu de la présidentielle de ce dimanche 25 octobre se joue sur le taux de participation. Malgré la prolongation du délai de retrait des cartes d'électeurs par la commission électorale indépendante, les Ivoiriens ne se bousculent pas pour aller les retirer. À ce désistement s'ajoute l'appel au boycott lancé par 3 personnalités politiques pro-Gbagbo. Ceci risque de compliquer la légitimité du prochain président, pour notamment réconcilier les Ivoiriens, a estimé l'analyste politique Christophe Kouamé, joint à Abidjan par VOA Afrique. Eric Manirakiza l'a interrogé sur les conséquences des divers appels au boycott.
Il faut observer un phénomène précis dont personne ne parle. Déjà pour le retrait pour 2015 des cartes d'électeurs, il n'y avait pas d'affluence du tout jusqu'à ce jour. Et la CEI vient de donner 3 jours supplémentaires. L'engouement pour le retrait des cartes électorales, avant même que certains partis lancent le boycott, est-ce parce que cette année 2015, ce n'est que les cartes d'électeurs et non couplées à la carte nationale d'identité? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous constatons, c'est que M. Sangaré Aboudraman a été rejoint dans l'appel au boycott par un des candidats qui vient de désister, c'est-à-dire Mamadou Koulibaly, qui, son slogan est simple, osons dire non à des élections truquées. L'association des deux phénomènes peut entraîner un faible taux de participation. D'ailleurs, le candidat sortant, tous les RHDP aujourd'hui se rendent compte sur le tard qu'il fallait peut-être prendre des prédispositions pour amener les uns et les autres à retirer leur carte.
C'était Christophe Kouamé, politologue à Abidjan. Les dernières plaidoiries du procès à Dakar de l'ex-président tchadien Hissène Habré, qui devait se tenir fin octobre, vont être décalées. Le point avec Abdou Chakour Aboud.
Le calendrier initial du procès de l'ancien homme fort de Tchad devant un tribunal spécial africain à Dakar ne sera pas respecté, a appris l'AFP d'une source au sein de cette juridiction.
Les toutes dernières plaidoiries qui devaient avoir lieu dans quelques jours sont repoussées à une date ultérieure. Impossible pour lors de savoir si ce nouveau délai va être de quelques semaines ou quelques mois. Hissène Habré, accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de torture durant sa présidence au Tchad, comparé depuis le 20 juillet devant les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial créé en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine qu'il ne reconnaît pas. Il refuse de s'exprimer et de se défendre devant cette juridiction. Hissène Habré encourt entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité. Une commission d'enquête tchadienne a estimé que la répression durant sa présidence a fait 40 000 morts.
Au Burkina Faso, la justice militaire a lancé un mandat d'arrêt international contre Fatou Diendéré, l'épouse du général Gilbert Diendéré, le chef du putsch de septembre. Élue à l'Assemblée nationale en 2002, Madame Diendéré a été réélue jusqu'en 2012 pour le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Sa candidature aux législatives avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, au même titre que celle d'une cinquantaine d'autres membres du parti, parce qu'elle avait soutenu la réforme de la Constitution qui devait permettre à Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Le général Diendéré, quant à lui, est poursuivi pour 11 chefs d'inculpation, dont celui de crimes contre l'humanité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président syrien Bachar al-Assad est retourné dans son pays ce mercredi après avoir rencontré le président Vladimir Poutine à Moscou pour discuter du soutien militaire russe à l'armée syrienne. Des précisions avec Salwa Jafari.
C'est son premier voyage officiel depuis le début de la guerre et cette première sortie, Bachar al-Assad a voulu la dédier à son meilleur allié, Vladimir Poutine. En gage de remerciement, al-Assad a pris le risque de s'aventurer au-delà des frontières de son pays, un pays qui, rappelons-le, est toujours en proie au chaos à l'heure où la campagne de raid aérien de l'aviation russe est entrée dans sa quatrième semaine. Souriant, visiblement détendu, le président syrien a rappelé que sans Vladimir Poutine, le terrorisme se serait propagé davantage. Son hôte a lui souligné que toute action militaire en Syrie doit conduire à un processus politique.
En ce qui concerne le règlement de la situation en Syrie, nous pensons que, sur la base de la dynamique positive, dans le cours de l'action militaire, le règlement à long terme peut être atteint dans le cadre d'un processus politique avec la participation de toutes les forces politiques et les différents groupes ethniques et religieux. Et en fin de compte, le dernier mot devrait, sans aucun doute, revenir au peuple syrien, a déclaré Vladimir Poutine.
Mardi, la Russie et les États-Unis ont signé un protocole d'entente pour permettre aux aéronefs des deux pays de se maintenir à distance de sécurité les uns des autres lors des opérations militaires en Syrie. Sans préciser exactement quelle distance, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, a déclaré devant la presse que les Russes ont demandé que ce protocole ne soit pas rendu public.
Gros plan sur la crise migratoire en Europe. Notre envoyé spécial Nicolas Pinault s'est rendu dans le nord de la France à Calais, la principale ville de liaison avec la Grande-Bretagne grâce à son port et au tunnel sous la Manche. C'est dans cette ville qu'il y a un camp de plusieurs milliers de migrants surnommés la jungle. Ils souhaitent pour la plupart rejoindre l'Angleterre, dernière étape de leur voyage périlleux.
Des taches bleues ou blanches se comptent par centaines. Bienvenue dans la jungle, nom barbare de ce bidonville où s'entassent déjà plus de 4000 personnes aux abords de Calais. Soudanais, Afghans ou Syriens, ils attendent de pouvoir gagner l'Angleterre mais sont bloqués en France dans la misère. Céline Schmitt est la porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés.
Les conditions de vie ici à Calais, comme vous le voyez, sont vraiment déplorables. Les personnes vivent sous des bâches en plastique et la majorité des personnes qui sont ici parce qu'elles fuient des conflits ou fuient des persécutions. Tout le monde doit être traité avec dignité, avec humanité, réfugiés ou migrants.
Qu'il semble loin le rêve anglais dans ces tentes balayées par le vent et le sable, les migrants tentent de survivre et de préparer l'hiver qui approche. Emmitouflé dans son gros manteau, ses gants et son bonnet, Badeldine Chogar est un Soudanais originaire du Darfour.
C'est très dur de vivre ici. Le temps est très mauvais avec de la pluie. Il fait très froid, il y a du vent. Very cold,
windy. Et leur attente devrait se prolonger puisque le port de Calais a été totalement sécurisé avec des clôtures hautes de 3 mètres et des fils barbelés au-dessus.
Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce reportage de Nicolas Pinault, envoyé spécial de VO Afrique en Europe, dans nos prochaines éditions et sur notre site internet. Le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a donné aujourd'hui son feu vert à l'accord nucléaire avec les grandes puissances, malgré des ambiguïtés et des faiblesses structurelles, a-t-il indiqué dans une lettre au président Hassan Rouhani. L'ayatollah estime que dans les 8 années à venir au cours desquelles l'Iran doit limiter son programme nucléaire, toute nouvelle sanction sous n'importe quel prétexte, notamment le terrorisme ou les droits de l'homme, qui serait prise par un quelconque pays engagé dans les négociations sera une violation de l'accord et le gouvernement sera alors obligé de le rompre, a-t-il dit. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Bernardino León, a affirmé aujourd'hui que le processus de négociation allait se poursuivre malgré le rejet du plan de paix de l'ONU par plusieurs parties libyennes, car il n'y a pas d'autre alternative pour ce pays en proie au chaos, a-t-il déclaré. Les propositions onusiennes qui comprennent la désignation d'un Premier ministre ont été rejetées par les deux parlements ennemis de Tripoli et de Tobrouk. Voilà, la prochaine édition sur VOA Afrique, c'est dans 50 minutes. À très bientôt, restez avec nous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.